RTL Original Podcast.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bulle Immo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Soufiane Sadi, CEO du groupe Atom. Bonjour.
Bonjour Gaël.
Pierre Clément, directeur de Nexia, comment allez-vous?
Très bien, merci.
Et Julien Licheron, expert de l'Observatoire de l'Habitat. Comment ça va?
Bonjour, très bien, je suis en pleine forme.
Super. Écoutez, on se retrouve une semaine après la publication du logement en chiffres numéro 17 qui revient sur l'évolution des prix et des loyers en 2024. Soufiane, Atom a publié en début de semaine les tendances au premier trimestre 2025. Je propose quand même de commencer avec le rapport de l'Observatoire de l'Habitat dont vous êtes un des auteurs. Julien, est-ce qu'on pourrait peut-être entendre de votre part quelles sont les tendances à souligner sur l'année qui vient de s'écouler?
Oui, sans aucun problème. Alors, cette année, elle a été quand même marquée par un redémarrage de l'activité qui a culminé au quatrième trimestre avec des chiffres qui sont relativement supérieurs peut-être aux attentes pour ce qui est de l'activité, notamment sur les marchés des appartements et des maisons existantes, où on est au-dessus ou assez proche en tout cas des niveaux qu'on avait avant la crise, donc sur la période 2017-2022. On retrouve des niveaux d'activité qui sont quand même soutenus, qui ont probablement été alimentés en partie par les mesures fiscales décidées par le gouvernement et qui ont été prolongées aujourd'hui jusqu'au 30 juin. Mais en tout cas, c'était quand même une tendance de fond sur les marchés des appartements et des maisons existantes. On a observé tout au long de l'année 2024 un redémarrage et aujourd'hui, on a effectivement un nombre de transactions qui est relativement correct. La seule difficulté, c'est sur le marché du neuf où on est là encore assez nettement en dessous des standards qu'on avait avant la crise, malgré là aussi un redémarrage de l'activité au quatrième trimestre. Là, c'est quelque chose qu'il va falloir suivre de manière plus précise pour voir si ça se confirme ou pas dans les prochains mois.
Oui, parce que la progression, elle est énorme sur le neuf, mais c'est aussi parce qu'on était à des niveaux très très bas.
Voilà, si on compare effectivement par rapport à ce qu'on avait il y a maintenant un an, donc par rapport au quatrième trimestre 2023, on est quasiment 4 fois au-dessus en termes de niveau d'activité, mais on partait d'un plafond, d'un plancher tellement bas où on était à presque 100 transactions sur le seul trimestre, donc c'est-à-dire pas grand-chose. Donc aujourd'hui, on a fait un x4. Au quatrième trimestre 2024, mais on reste très en dessous des standards des années 2017-2022.
Vous pouvez nous rappeler les standards
Bon, les standards sur un trimestre normal, c'est 600 ventes d'appartements neufs. Et il s'avère qu'au quatrième trimestre, pour plein de raisons, c'était plutôt 800. Parce qu'on avait souvent des mesures fiscales qui expiraient et donc des anticipations d'achat. Donc sur ce marché-là, au quatrième trimestre, on a souvent 800 transactions. Mmh. Et au quatrième trimestre 2024, on était aux alentours de 400.
Donc on est à moitié.
On est à moitié.
Merci Julien. Soufiane, est-ce que vous pouvez un petit peu nous donner les grandes lignes du rapport que vous venez de partager avec la presse, si je ne me trompe pas, c'était hier?
Oui, absolument. Ben, en fait, ce qu'on observe sur ce premier trimestre 2025, c'est que les tendances confirment un petit peu ce qui a été observé par rapport à Q4 2024. Donc à savoir cette reprise qui est assez vigoureuse, qui continue sur ce début d'année 2025. Donc une appréciation sur les prix, que ça soit pour l'ancien ou pour le neuf. Donc ça, on voit que cette tendance, elle continue. De l'autre côté, au niveau des transactions, donc nous, ce qu'on observe, c'est plutôt au niveau de la rotation des annonces. Donc là, clairement, on voit une amélioration assez significative. Donc en gros, les biens restent moins longtemps sur le site, ce qui signifie qu'il y a plus de transactions. Et le dernier point aussi, il y a quelque chose que l'on observe en fait, c'est que les prix, donc la demande, on va dire sur les biens en location, a été en baisse par rapport à la demande sur les biens qui sont en vente. Donc ça, on peut le mesurer sur base des retours qui sont générés, que ce soit via des emails envoyés ou des appels téléphoniques. Donc clairement, on voit une inversion des courbes. Et on avait l'inverse au moment où, je dirais que la crise a commencé avec un report sur le locatif. Donc là, on voit un petit peu ces tendances qui sont en train de s'inverser, qui confirment cette reprise de l'activité, qui a été probablement aussi boostée par les mesures sur le dernier trimestre 2024.
Donc la reprise est bel et bien arrivée sur l'existant, on l'a compris. Pierre, pouvez-vous nous parler un petit peu du trimestre que vous venez de vivre? Les affaires reprennent-elles de plus belle? Qui achète actuellement? Des particuliers, des investisseurs? Comment ça se passe?
On a vécu donc un dernier trimestre 2024 très actif, qui a été en effet boosté par le paquet fiscal relatif à l'immobilier. Depuis, on a une activité qui reste soutenue au premier semestre 2025, puisque nous, on voit déjà un peu tout ce qu'on a signé en termes de compromis. On voit aussi que l'effet boost va encore arriver sur le deuxième trimestre 2025, puisque les mesures normalement s'arrêtent au 30 juin. Donc là, il y a aussi une intention des gens d'acter évidemment leur achat avant le 30 juin. Donc on a une activité soutenue. En termes d'actes, il est probable que le prochain trimestre, vous voyez un premier trimestre 2025 plutôt décevant, parce que beaucoup de transactions ont été faites justement avant la fin de l'année, en pensant que les mesures n'allaient pas être portées. Et donc, en revanche, on va avoir un deuxième trimestre 2025 qui va être à nouveau très boosté. Donc, il va falloir pas non plus s'alarmer par rapport au premier semestre 2025 et attendre les chiffres sur 6 mois pour se donner une idée. En tout cas, nous, de notre côté, on voit qu'on a une activité qui est nettement plus soutenue que le premier semestre 2024, qui sera quand même un peu moins que le dernier semestre 2024, puisque là, il avait quand même été très fort. On a eu plus de 1350 transactions d'appartements neufs, qui est un record inégalé depuis, depuis des années. Mais donc, l'activité est bonne. En termes de typologie de biens, en revanche, on reste quand même sur des transactions qui sont très fortement concentrées sur des biens allant jusqu'à 1,3 million, 1,4 million, 1,5 million, des biens qui sont achetés par des propriétaires occupants, et les investisseurs sont encore en train de regarder ce qu'ils vont faire. Alors, ils sont un peu plus là, néanmoins, ils ne sont pas encore repassés tous à l'action sur le marché de l'immobilier comme on l'avait précédemment connu jusqu'en 2020-2021.
Après ce qu'on a vu sur les marchés boursiers, toutes les annonces de notre ami de l'autre côté de l'Atlantique, j'imaginerais qu'il y aurait au moins des sollicitations de la part des investisseurs, parce que la pierre reste un peu plus sûre actuellement que tout ce qu'on voit en bourse.
Je pense que les rendements ont augmenté quand on fait un achat immobilier pour du locatif, et je pense que l'étude d'ailleurs faite par le département de Julien est très intéressante sur ce volet-là. Néanmoins, les rendements ont besoin d'être très élevés pour un investisseur. Les investisseurs n'achètent pratiquement pas en cash. Vu les montants des achats à Luxembourg, il faut s'endetter. Les investisseurs s'endettent, ils regardent s'il y a un effet de levier qui est intéressant. Et aujourd'hui, l'effet de levier reste compliqué, puisque les taux sont encore à des niveaux de 3,5% sur du variable et les taux longs à 4%. Donc, si vous voulez, l'investissement locatif reste relativement peu intéressant, surtout si vous pensez que l'augmentation des prix ou la plus-value potentielle à long terme n'est pas importante.
Ouais, en général, ce que dit Pierre est tout à fait vrai. Les rendements locatifs sur des marchés où l'immobilier est cher pas aussi important qu'on pourrait le croire. Donc l'équation est simple. Si vous empruntez un certain taux et si vous louez avec un rendement de 3%...
Donc l'immobilier est cher au Luxembourg.
Même en comparaison européenne, je pense que personne ne dira le contraire.
Je plaisante.
C'est une certitude. Oui. Mais du coup, il y a l'appréciation effectivement sur la plus-value que va prendre le bien, les rendements locatifs aussi. Mais moi, je pense que la pierre reste, donne une certaine stabilité par rapport à l'incertitude, en tout cas que peut apporter un investissement dans la bourse, par exemple.
Alors, si l'on se fie aux moyennes communiquées par Atome, la hausse des prix se confirme sur le marché immobilier, vous l'avez évoqué. Est-ce qu'on est reparti sur un épisode ininterrompu de hausse des prix, ou est-ce que c'est quelque chose d'un petit peu plus mesuré, ce que vous anticipez ?
Alors, je pense, comme on l'avait déjà prédit, entre guillemets, c'est qu'à partir du moment où la demande va petit à petit revenir, et à partir du moment aussi où on a structurellement un déficit de l'offre, l'effet que l'on voit aujourd'hui, c'est une légère augmentation des prix. On est, je crois, sur 1,4%. Donc, cette augmentation sur les prix annoncés, elle se confirme. On est aussi dans ces eaux-là, probablement entre 1,5 et 3%. Il faut que ça se... On verra au niveau des prix réels. Mais c'est quelque chose que l'on commence à observer. Après, je ne pense pas que ça va avoir l'amplitude qu'on a eue il y a quelques années. Mais on reste sur des appréciations qui sont plutôt dans la norme. Que ça soit 2, 2,5, 3%, en tout cas ce qu'on peut voir dans d'autres pays. Par rapport à des augmentations, on était à du 10, puis une année à 15%. Ça, c'était, je pense, il y avait clairement une surchauffe.
17, je pense même.
Oui, sur 12 mois glissants, à un moment, on était à plus de 17%.
On était à 17. Donc probablement une appréciation des prix, pas l'amplitude qu'on a eue, mais on y va petit à petit.
Oui. C'est quoi une augmentation saine des prix ?
C'est difficile à dire, mais disons une augmentation saine des prix, c'est quelque part au-delà, juste un tout petit peu au-delà de l'inflation, ça serait quelque chose de tout à fait envisageable. Ouais. Et là, on est aux alentours de 1,8% pour l'inflation sur les 12 derniers mois, je pense. Mmh. Donc on est, voilà, on peut imaginer que 2% d'augmentation des prix par an, ça serait quelque chose d'explicable. Et ça serait une façon de conserver la valeur réelle du bien. Ça serait envisageable. Mais c'est vrai que les augmentations qu'on a connues, elles sont difficilement imaginables pour demain ou après-demain. Pour deux raisons, je pense. D'abord, les taux d'intérêt ne reviendront pas au niveau qu'on a connu. Et donc, aujourd'hui, il faut voir que ça, c'est un élément important quand même dans la capacité d'achat des ménages. On ne retrouvera probablement pas des taux inférieurs à 1% comme on a pu connaître. Ça, c'est très difficile à imaginer. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on a vu pendant cette crise que les prix au Luxembourg pouvaient baisser. Et qu'à un moment, si la perte de pouvoir d'achat était trop amputée du côté des ménages, ben, y avait simplement plus moyen d'acheter. Si aujourd'hui les prix augmentent pendant 2 ou 3 ans de 15%, on retrouvera le même problème. Une incapacité des ménages à accéder à ce marché parce que les prix seront trop élevés. Voilà, on a vu quand même que d'une, les taux avaient une importance capitale sur le marché immobilier, et de deux, le pouvoir d'achat ne peut pas monter jusqu'au ciel non plus, et à un moment, c'est juste pas possible.
Ouais, c'est bien la démonstration de la baisse des prix qu'on a connue, avec une amplitude de plus de
15%, voire 20% pour les maisons. Ouais.
Qu'on a atteint les limites. On avait atteint les limites. On peut dire, en effet, je pense que Julien sera d'accord, qu'il y a 30 ans, probablement, le marché immobilier était peu cher au Luxembourg par rapport à ce que gagnaient les gens. Par rapport
probablement.
À ce
que... Peut-être que... même il y a 15 ans, quand
même encore
moi
il y a 15
je suis arrivé
ans.
En 2009, c'est vrai qu'on pouvait dire, en comparaison européenne, les prix, comparativement aux revenus, étaient relativement modérés au Luxembourg.
Ouais. Mais ils ont tellement augmenté jusque 2022 que la démonstration est que au prix de 2022, il n'y avait plus la marge de manœuvre pour absorber l'augmentation des taux et que en effet, les gens achètent certes avec un gros pouvoir d'achat important, mais majoritairement endettés de manière significative. Mmh. Et donc, ça démontre bien qu'il y a quand même une fragilité qui aujourd'hui qui a été démontrée en tout cas.
Moi, j'ai constaté quand même un shift dans les discours, en particulier quand on prend les derniers discours du ministre du Logement. J'ai quand même l'impression qu'on est un petit peu en train de se tourner vers une société où on aurait plus de locataires que de propriétaires, alors que Luxembourg, historiquement, c'est un pays de propriétaires. Est-ce que c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on va, construire pour louer ?
Bah, j'espère moi qu'on va construire pour louer en tout cas, parce qu'en fait j'espère qu'on va construire du logement pour que les gens puissent venir habiter plus proche de leur emploi, et je pense que ce serait une excellente nouvelle. Si vous avez des propriétaires qui ont un gros parc locatif, bah, c'est aussi une manière de détendre le marché. Et vous avez des très grands projets à Luxembourgville, par exemple, avec des propriétaires fonciers, historiquement, par exemple, industriels, qui peuvent demain mettre beaucoup de logements qui sont en train de mettre beaucoup de logements en construction, et qui va avoir aussi un contre-pouvoir par rapport à que les petits investisseurs privés. Tant que le parc augmente, ça détend évidemment la pression sur les loyers.
Mais construire pour louer, est-ce que ça ne veut pas dire aussi que, d'une certaine manière, il y a un pan de la société qui sera exclu de la capacité à acheter, en fait ?
C'est vrai que la priorité aujourd'hui, c'est quand même augmenter l'offre par tous les moyens et de toutes les manières possibles. Et ça, c'est la priorité parce qu'en fait, on ne pourra pas imaginer une détente sur les prix si on n'a pas une augmentation assez claire de l'offre. Ça, c'est la priorité. Donc, c'est vraiment offrir du logement avant tout. Après, on a aussi, je pense, une aspiration d'un grand nombre de ménages luxembourgeois à la propriété. Donc, il faudra sans doute tenir compte de cette aspiration aussi. Mais voilà, il y a d'abord des besoins, et ces besoins, c'est des besoins en logement.
C'est l'accès au logement. Ça, c'est la priorité. Je crois qu'on est à 7 personnes sur 10, 7 ménages sur 10 aujourd'hui au Luxembourg qui sont propriétaires. Dans d'autres pays, en Allemagne, c'est, je crois, 5 ménages sur 10.
Mais est-ce que c'est vraiment un marché qu'on veut imiter ?
Pourquoi pas ? À partir du moment où on donne l'accès au logement, c'est-à-dire que l'accès au logement permet aussi d'attirer des gens qui vont pouvoir venir vivre au Luxembourg, travailler au Luxembourg, et ça c'est la problématique.
Parce que le marché allemand vient de s'effondrer sur les deux dernières années, d'ailleurs ils ont dévoilé un énorme plan de relance pour le logement parce qu'ils n'avaient pas le choix.
Mais c'est aujourd'hui au Luxembourg on a structurellement un manque de logement. Donc après il faut construire plus, que ça soit mis à la location ou que ça soit mis à la vente, j'ai envie de dire peu importe, si l'accès à la propriété est possible pour un ménage, tant mieux. Mais aujourd'hui, si on a des prix qui sont aussi importants, il faut être aussi clairvoyant que l'accès à la propriété, pour beaucoup de personnes, sera quasiment impossible. Mais c'est comme si on comparait quelqu'un qui veut être propriétaire dans une ville comme Paris ou Londres, où c'est impossible. Donc, il y a des endroits où ça sera très compliqué d'acheter. Maintenant, structurellement, le paradigme a toujours été, que ce soit au Luxembourg, en Belgique par exemple, ou en France, dès qu'on peut travailler, on investit pour acheter sa maison. Mais si une maison au Luxembourg coûte 1 million d'euros, 1 million 2, 1 million 3, 1 million 5...
C'est pas la portée de tout le monde.
C'est pas la portée de tout le monde. Mais si la personne ne peut même pas se loger, ne peut même pas louer, qu'elle décide de partir ailleurs, dans un autre pays, ça devient problématique.
Pour l'économie du pays.
Pour l'économie en termes de compétitivité. Et comme tu le mentionnais tout à l'heure, on voit des choses qui se passent. On voit des mesures de protectionnisme qui font qu'aujourd'hui en Europe, ça devient de plus en plus difficile. Il faut être plus compétitif. Il va falloir aussi se battre pour que l'économie continue à se développer. Mais il faut des talents aujourd'hui qui puissent venir et travailler et vivre au Luxembourg.
Et ça, c'est pas évident actuellement.
Et quand vous arrivez, il ne faut pas oublier que vous arrivez au Luxembourg parce que vous êtes content d'avoir un bon job, correctement payé, peut-être un peu mieux payé que dans un pays voisin. Et votre première, en tant que jeune, quand vous arrivez à 23 ou 24 ans, vous ne posez pas la question si vous voulez être propriétaire. Hein. C'est quand même une question qui vient après. Par contre, vous posez la vraie question de savoir comment vous vous logez, à quel prix. Et là, quand on voit les logements au Luxembourg et le prix des loyers, certains préfèrent dire finalement, je vais aller à Amsterdam, je vais aller à Paris. Mon reste à vivre est largement aussi intéressant. Et en plus, dans une ville un peu plus sexy. Hein.
Moi, alors... je serais plus nuancé sur ça quand même. Je dirais que d'abord, on a un problème quantitatif. Et c'est ce problème quantitatif qu'il faut résoudre pour permettre l'accès au logement d'une partie importante des ménages. Mais ensuite, je pense qu'il y a quand même une aspiration à la propriété qui s'explique aussi par la comparaison avec ses parents. C'est vrai que c'est difficile, je pense, pour certains ménages luxembourgeois, non luxembourgeois, de se dire qu'ils ne seront jamais propriétaires alors que leurs parents avaient pu l'être. Ça, c'est vrai que je peux comprendre.
Assez facilement, d'autant plus.
Assez facilement. Donc oui, il y a une aspiration à la propriété dont il faut tenir compte. Peut-être que d'un point de vue des mentalités, on n'est pas comme en Suisse ou en Allemagne où les taux de propriétaires sont plus bas. Et donc cette aspiration, elle doit être prise en compte. Mais la priorité, c'est d'abord d'offrir du logement. Et ensuite, j'ajouterai un troisième point. Ce qui différencie aussi le Luxembourg des pays voisins, c'est la faible part du logement locatif social. Donc il n'y a pas vraiment d'échappatoire au marché privé, que ce soit via l'accession à la propriété ou via le locatif traditionnel privé. Et c'est vrai que c'est difficile sur ce marché de développer une offre alternative à la location privée et à l'accès à la propriété.
Alors, est-ce que vous avez des échos du secteur de la construction ? Parce que pour ma part, j'ai tout entendu. J'ai entendu que l'activité revenait, j'ai entendu que la confiance revenait. Et à l'inverse, j'ai entendu parler de traversée du désert, d'une personne quand même assez bien placée. Qu'en est-il d'après vos sources ? Comment ça se passe actuellement au premier trimestre sur le neuf ?
Je pense que la reprise qu'on a pu voir dans le nombre d'actes de la VFA est absorbée par quelques promoteurs pour qui la confiance n'est pas érodée, car c'est des gens qui sont établis depuis des décennies au Luxembourg ou ailleurs, et donc les acheteurs n'ont pas peur qu'ils soient dans une situation compliquée et qu'ils ne pourraient pas finir les appartements qu'ils achètent. Et je pense que la plupart des acquisitions, ce que j'entends aussi, se font sur des biens qui sont proches d'être finis, donc pour limiter le risque envers les promoteurs. Je pense qu'il va y avoir la situation est différente selon le profil des promoteurs qui sont actifs au Luxembourg. On vient de voir dans la presse, certains gros étrangers font vœu de faillite. Et c'est des choses, je pense, qui peuvent aussi continuer si la situation continue à être compliquée sur l'année 2025. Mmh.
Soufiane, Julien ?
Pour ma part, c'est en fait très contrasté. Ça peut varier. Il y a des promoteurs qui ont fait un très bon trimestre et les chiffres de reprise, même si on compare à des niveaux qui sont plus bas, mais il y a quand même un volume qui a augmenté en Q4. Donc c'est assez contrasté. On a des retours de certains promoteurs qui travaillent très très bien, qui sont très contents, et d'autres qui sont en difficulté. Mais en fait, c'est aussi au cas par cas. Le promoteur qui a acheté son terrain à un prix élevé, qui a des engagements financiers importants, qui n'a pas forcément la trésorerie, va être peut-être un peu plus en difficulté qu'un autre promoteur.
Avec les deux dernières années, je pense qu'il n'est plus là.
Donc clairement, il y a une typologie qui est assez différente, et on a des grosses structures où parfois ça prend du temps aussi pour que, on va dire, ça débouche sur des difficultés qui sont assez importantes. Donc on voit qu'il y a un effet qui n'est pas aussi, on va dire, rapide pour un agent immobilier qui a peut-être une plus petite structure où l'arrêt de l'activité va tout de suite se faire ressentir. Donc c'est ce qu'on voit, hein, c'est ce qu'on a pu aussi lire dans la presse. Mais je rejoins un peu ce constat c'est assez contrasté, mais globalement, il y a une reprise, mais qui, je dirais, n'a pas la même amplitude globalement. On ne peut pas avoir un message qui soit global. Il y a des choses qui se passent mieux, il y a des choses qui se passent un petit peu moins bien. Ça reste globalement assez contrasté, avec de l'autre côté, effectivement, des prix sur le neuf qui sont supérieurs à ceux de l'ancien. Donc ça reste un engagement qui est assez important. Et de l'autre côté, la confiance aussi des acheteurs sur les dernières années, qui s'est peut-être un peu érodé, qui doit peut-être revenir sur les prochains mois pour que ça reprenne bien, malgré les mesures incitatives.
Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que les mesures fiscales ont quand même permis d'avoir un niveau de transaction sur le neuf supérieur au dernier trimestre 2024.
Et la baisse des taux.
La baisse des taux, non. La baisse des taux, elle est réelle que sur le variable. Vous avez très peu de gens qui investissent en variable, où c'est une part relativement limitée. Ils vont peut-être continuer à investir un peu plus avec les prévisions de baisse encore de la Banque Centrale Européenne. Il est probable que d'ici quelques mois, on est encore 0,5% en dessous de ce qu'on est actuellement. Donc les taux variables devraient s'établir à 3%
Vu qu'on emprunte quand même quasiment toujours sur 30 ans au Luxembourg, les taux d'intérêt fixes ont quand même baissé par rapport à novembre, octobre 2024.
C'est pas vrai, les taux ont plutôt augmenté. Ils ont plutôt pris 20-25 points de base dernièrement ce qui est en train de se passer aux États-Unis, avec retour de l'inflation peut-être un peu plus importante prévu.
Parce que la dernière baisse de la Banque Centrale.
Mais la Banque Centrale n'a un impact que sur les taux variables.
Sur les taux variables.
La Banque Centrale n'a pas d'impact sur les taux longs. Les taux longs, les banques achètent une couverture pour pouvoir emprunter elles-mêmes à 25 ans ou à 30 ans et fournir le produit d'emprunt à 25 ou 30 ans. Et aujourd'hui, ces couvertures-là valent plus cher parce que les analystes pensent qu'il y aura une inflation à long terme qui sera un petit peu plus élevée. Donc aujourd'hui à des taux qui sont un petit peu plus hauts, mais dans la stabilité, on est à 3,80 sur les taux longs. Et on peut penser qu'on va garder le même niveau de taux à peu près sur toute l'année, et probablement même sur les années suivantes, selon les prévisionnistes financiers. En revanche, le taux variable devrait avoir un spread plus important par rapport au taux fixe, et on devrait arriver à 3%. Et donc, la bonne nouvelle pour le neuf, c'est que des investisseurs qui sont avec aujourd'hui, qui ont une épargne et qui est probablement placée à la banque, cette épargne leur apporte moins dans un produit sûr, dans un dépôt à terme.
Donc ils ont intérêt à investir.
Elles vont, voilà, demain, ils vont avoir un produit qui va leur rapporter probablement 1%. Donc, à nouveau, gagner, je veux dire, 3,75% en investissant, même hors économie fiscale, dans un produit immobilier, redevient intéressant. Et donc, vous pouvez penser que certains investisseurs qui ont un peu plus d'argent, qui sont capables de prendre un peu de risque, peuvent emprunter en variable et pas prendre du fixe à 3,80. Mmh. C'est ce que, personnellement, si j'investissais, ce que je ferais. Parce que, mais c'est néanmoins beaucoup de... Voilà, c'est prendre une décision qui est... moins sûre ou stable que celle que vous preniez il y a 4 ans. Il y a 4 ans, vous pouviez emprunter un taux fixe à 1% pour un investisseur et avoir un rendement, certes, de 2,5 ou 3, mais avec l'argent qui était tellement peu cher, votre retour sur investissement devenait très intéressant. Mais comme on l'a dit au début de cette émission, je pense qu'il y a quand même une incertitude politique, macroéconomique, et la baisse des rendements sur des produits où tout s'était envolé sur la dernière année, qui fait que l'immobilier peut revenir un peu sur l'avant de la scène, vu qu'il est considéré comme un produit stable, produit qu'on contrôle, parce que généralement on achète à côté de chez soi, dans une économie qu'on connaît bien, et donc c'est rassurant. Et je pense que les gens vont vouloir davantage acheter, investir dans un produit rassurant qu'ils comprennent.
C'est pour ça que la question de la confiance dans le marché et dans les acteurs, elle est clé ici. Parce que c'est un élément important de l'attractivité pour les investisseurs sur le marché immobilier, cette confiance. Donc c'est clair que les mesures fiscales du gouvernement, elles ont aidé aussi sans doute à passer le cap et à rétablir cette confiance qui est indispensable. Et comme le disait Soufiane, c'est une question, c'est très hétérogène, ça dépend beaucoup des promoteurs, mais ça dépend même des projets en réalité. Et au niveau des projets, c'est vrai que la capacité du promoteur à sortir des prix compétitifs et intéressants est limitée par l'accès au foncier et la date à laquelle le foncier a été acheté. Ouais, c'est clair qu'aujourd'hui, tous les projets ne se valent pas en termes d'attractivité et d'intérêt en termes de prix.
Mmh. Alors, vous avez mentionné les aides fiscales. Justement, j'allais y venir. Est-ce que c'est vraiment fini cet été, à votre avis ? Parce que je vous demande ça, parce que Luxembourg a pris énormément de retard ces dernières années en termes de construction. Est-ce qu'on va vraiment mettre fin à ces aides fiscales, à votre avis ?
Je pense que personne ici peut répondre à la question. C'est pas nous trois ici autour de la table.
Pour ça, je vous demande votre avis.
Mais alors, moi, je vais vous donner mon avis. Moi, je pense qu'il faudrait proroger le paquet d'aide fiscale tant que la situation du neuf n'est pas stabilisée. On voit qu'il y a une reprise. On voit qu'il y a eu 400 transactions. Mais attendez, on est toujours deux fois moins que un trimestre normal. Mmh. Et on a pris un tel retard. Et les promoteurs ont un stock de biens à construire, à vendre, qui est important. Et au-delà de la discussion autour de est-ce qu'il ne faudrait pas un grand nettoyage, etc., je pense que surtout, on a besoin de logements. Et aujourd'hui, ces promoteurs représentent aussi... un risque financier pour le pays. Donc je pense qu'il vaut mieux essayer de les aider, continuer à les aider pour qu'il y ait du logement qui soit créé et recréé et augmenter la confiance envers cette part du marché qui en a besoin.
Et c'est sans parler de tous les constructeurs qui sont en souffrance derrière. C'est-à-dire que si les boîtes de construction font faillite, ça va prendre énormément de temps à remettre tout ça en...
Il y a déjà eu beaucoup de pertes, quand on regarde depuis 2022. Et je pense qu'il vaut mieux perdre quelques rentrées fiscales, mais soutenir ce pan de l'économie qui est très important et qui est aussi au-delà de... c'est un pan de l'économie, mais c'est un pan aussi de... c'est se faire des économies aussi de problèmes sociaux, enfin c'est des problèmes sociaux derrière. Mmh. Si c'est les gens qui ne sont pas livrés, les gens qui ont des problèmes si ils ne peuvent plus se loger parce qu'un promoteur n'arrive plus à tenir parce qu'il n'a pas assez vendu de biens, ça devient problématique.
Mmh. Moi, je partage complètement cet avis. Hein. C'est quand même, mais c'est difficile à, c'est difficile de soutenir complètement cette démarche parce qu'on est toujours dans l'idée qu'on va subventionner ou aider l'offre en subventionnant la demande. Ce qu'on a fait pendant des années, et ce qui a longtemps été considéré comme finalement un problème et une solution qui n'était pas forcément la meilleure. Maintenant, dans la situation où on est, qui est un vrai problème conjoncturel de confiance, de la nécessité de retrouver la confiance dans le marché, ça peut se justifier. Après, je pense que ça ne peut pas se justifier éternellement non plus, cette stratégie de subventionner la demande, histoire d'augmenter l'offre. Il faut à un moment que l'offre augmente par elle-même et trouver des solutions structurelles à l'augmentation de l'offre. Maintenant, oui, tant que la question du retour de la confiance et de l'offre de logement se pose, oui, on peut continuer à subventionner comme ça.
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ces mesures ont eu un impact. Pour preuve, les volumes, je veux dire, c'est quand même assez impressionnant quand on voit les...
En particulier les sur l'existant.
Voilà, ça a eu un impact. On ne peut pas dire le contraire. Maintenant... c'est clair qu'on ne peut pas rester comme ça éternellement et que structurellement, il y a un problème, on l'a toujours dit. Un problème par rapport à l'offre. Et trouver des solutions... on ne peut pas construire des biens du jour au lendemain. Je veux dire, il faut des ouvriers, il faut des promoteurs, il faut des constructeurs, il faut mobiliser des terrains. Ça prend du temps, c'est des projets sur 1, 2, 3 ans. Et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il faut des logements vite et que sur le terrain, ça se concrétise pas aussi rapidement. Donc peut-être qu'il faut aussi, comme on l'a eu pour soutenir la demande, des mesures vraiment très très fortes qui structurellement vont avoir un effet sur l'offre.
Alors c'est un sujet qu'on mentionne un petit peu moins souvent, mais quid des loyers ? On voit sur la carte Atome que la situation est très différente selon les endroits où on cherche. Alors si j'ai bien compris, au niveau national, on observe une baisse. Elle n'est pas forcément très très importante. Mais quand on regarde vraiment la carte du nord au sud, on voit que c'est pas le cas partout. Et qu'il y a même des hausses assez importantes dépendant de la localisation du bien. Vous pouvez nous en parler un petit peu, Sophia ?
Effectivement, je pense que... Globalement, le message, c'est que, en tout cas, nous, ce qu'on a vu sur Atome, c'est qu'il y a une demande sur le locatif qui a baissé. Mmh. Donc, mécaniquement, ça a fait qu'aujourd'hui, on a une baisse des prix, je dirais, des biens qui sont mis en location, que ce soit pour les appartements, pour les maisons. Donc là, on a une baisse d'un trimestre sur l'autre de 2,5% sur les appartements et près de 2% sur les maisons.
Et c'est pas le premier trimestre où ça baisse, d'après vos informations ?
Non, non, c'est en train de... En gros, ça continue.
Okay.
Donc ça, c'est un peu le message principal, c'est que c'est en train de continuer. Après, ça peut varier en fonction de la typologie des biens qui sont mis en location, en fonction aussi donc sur la zone centre. On a un report, du coup, on peut avoir un report sur d'autres régions qui peuvent créer une certaine pression. Donc je dirais que globalement, il faut voir plutôt la moyenne globale, qui est une baisse des loyers. Avec peut-être des disparités entre régions, mais globalement, on est sur une baisse des loyers qui vient à la suite de cette baisse sur la demande, qui a moins de pression et, je dirais, moins de retours qui sont générés sur les appartements et les biens et les maisons qui sont mis en location.
Vous pouvez nous donner un petit peu les niveaux moyens des loyers sur les maisons, sur les appartements ?
Sur les maisons, on est à 3152 euros par mois et aujourd'hui, sur les appartements, à peu près 1800 euros. Ça, c'est la moyenne nationale.
Mais il faut voir que le segment des maisons, c'est un segment assez limité en termes de volume locatif. Hein. C'est vrai qu'on est sur un marché qui est quand même à plus de 90%
ouais, des appartements. Ça, c'est pas forcément... Mais je dirais que ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on a eu une hausse suite à un report de la demande sur le locatif. Ça a vraiment augmenté. Mmh. Là, on revient un petit peu vers une stabilisation, voire une baisse.
Très bien. Bah écoutez, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Soufiane, Pierre, Julien, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir en studio. Je vous dis à bientôt et à nos auditeurs, nous serons de retour au mois de mai avec les dernières actus sur le logement et l'immobilier au Luxembourg. Merci.
Merci. Merci. Merci.